Chapitre 5e. Je voudrais avoir l'honneur de parler à M. Alfred de Luxeuil, s'il est visible, disait M. Tranquillin au valet de chambre du jeune homme à la mode, style consacré, occupant l'un des deux appartements du second étage de la maison. « Je vais savoir si monsieur peut vous recevoir, » répondit le serviteur. « Votre nom, s'il vous plaît ?»« Tranquillin, l'homme d'affaires du propriétaire. »« Ah, pardon, monsieur, je ne vous connaissais pas. Veuillez attendre un instant, » répliqua le domestique. Et revenant au bout de quelques moments, il engage l'intendant à le suivre et l'introduit bientôt dans un somptueux salon où monsieur de Luxeuil déjeune de frais et d'une tasse de thé. Ce jeune homme est âgé de 25 ans environ. Sa taille élevée, svelte et souple, se dessine avec élégance sous les plis flottants de sa robe de chambre. Il est remarquablement beau, mais sa physionomie révèle une telle confiance en lui-même, une telle audace de fatuité, une foi si imperturbable dans la puissance irrésistible des séductions de sa personne, qu'il passerait, à bien dire, pour monomane à cet endroit, si de trop nombreux et trop faciles succès n'attestait à ses yeux que l'opinion qu'il a de son mérite invincible, si exorbitante, si insensée qu'elle doive paraître, n'est nullement exagérée. « Bonjour, mon cher, » dit M. de Luxeuil à Tranquillin, et lui indiquant du geste une chaise basse de bois doré, tapissée de brocatelles pourpre et blanche, comme les tentures du petit salon. « Asseyez-vous là. »« Monsieur, c'est trop d'honneur. »« Asseyez-vous là, vous dis-je. Je suis bon prince, moi. »« Monsieur, ce sera donc pour vous obéir. »« Vous arrivez, mon cher, très à propos. Je voulais justement vous faire dire de passer chez moi. »« Enchanté, monsieur, d'avoir prévenu mon désir. »« Mon cher, mes chevaux n'ont jamais été logés comme ils le sont ici. » « Moi, qui est en possession d'un vaste box bien aéré, où il peut évoluer en liberté, sans parler de la mangeoire de marbre, du râtelier de bronze historié qui font de ce box un modèle d'élégance. » « Monsieur Wolfram désire que les chevaux de messieurs les locataires soient aussi satisfaits de la maison que leur maître. Il y paraît. L'écurie qui avoisine ce box rivalise par son élégance avec ce que j'ai vu de mieux en Angleterre. Chaque stalle, menuisée en chêne, est une merveille de sculpture. La muraille, revêtue de stuc vert pâle, encadrée d'arabesques ponceaux, ne déparait aucune salle à manger. La sellerie, lambrissée de bois de citronnier rehaussé de bordures d'acajou, enfin l'hermise, vitrée, boisée et planchéiée, sont encore un modèle dans leur genre. Mon honoré maître sera, monsieur, fort aise de votre approbation. En somme, mes chevaux et moi, nous nous trouvons si parfaitement bien établis séants, que nous voulons y rester. Monsieur, ce désir est flatteur. » Tranquillin est interrompu par la rentrée du valet de chambre, apportant entre ses bras une énorme corbeille de violettes de Parme, au-dessus desquelles est déposée une enveloppe cachetée. Le valet de chambre dépose la corbeille sur un guéridon de mosaïque de Florence, tandis que monsieur de Luxeuil dit insoucieusement à son domestique « Bien, bien, cela vient de la rue d'Anjou, hein ?»« Non, monsieur. De la place Beauvau, alors ?» « Non, monsieur, mais de la rue de Grenelle-Saint-Germain, et cette corbeille est accompagnée d'une lettre. »« Tiens, tiens, de la rue de Grenelle, » se dit le beau assez surpris, et il ajouta, « Donnez-moi cette lettre. »« J'oubliais de dire à monsieur que monsieur Bérard est là. Il arrive de Viroflay, » ajouta le valet de chambre en remettant à son maître le billet déposé sur la corbeille de violette. « On attend la réponse à cette lettre et... »« Comment ? Bérard est là, et vous ne le faites pas entrer tout de suite ?» dit M. de Luxeuil, jetant la lettre sur la table. Puis, se levant brusquement, il s'élance à l'entrée du salon et crie « Bérard, Bérard, arrivez donc !» M. Bérard s'empresse d'accourir à cet appel. À peine est-il entré que M. de Luxeuil lui dit avec un accent de sollicitude et d'angoisse « Eh bien, comment va-t-elle ce matin ?»« Mademoiselle Madeleine n'est ni plus mal ni moins mal qu'elle ne l'était hier. »« Ainsi, aucun changement ?»« Aucun. C'est désolant. » « Elle est toujours dans un état d'agitation extrême. Je le crois bien, elle est si nerveuse. La fièvre est très forte. J'ai compté jusqu'à 110 pulsations à la minute. 110 pulsations, c'est énorme, n'est-ce pas, Bérard ?»« Oui, monsieur. Et de plus, le sommeil est rare, entrecoupé, la soif ardente, et c'est à peine si l'infusion que j'avais donnée a suffi à la désaltérer. Les aspirations du poumon sont fréquentes et souvent elle se plaint. Pauvre Madeleine !» dit M. de Luxeuil d'un air attendri, apitoyé. Elle se plaint. M. Tranquillin, ému de la sollicitude du beau, se livrait à cette réflexion philosophique. ainsi bat le monde. Ce jeune homme, à qui une grande dame sans doute envoie ce matin des fleurs, n'ouvre seulement pas cette lettre et ne songe qu'à la santé de mademoiselle Madeleine. Quelque grisette, sans doute, à en juger par son nom baptismal. Il n'importe. L'attendrissement de ce jeune homme prouve qu'il a bon cœur. « Enfin, que pensez-vous au juste de la maladie de Madeleine ?» reprenait M. de Luxeuil. « Vous croyez que l'air de la campagne, le repos, le régime et un exercice modéré suffiraient à la rétablir ?»« Je l'ai cru d'abord. Voilà pourquoi je vous avais engagé, monsieur, à envoyer mademoiselle Madeleine à Viroflay. Mais la maladie, alors latente, a fait des progrès. Et si j'en crois à mon diagnostic, qui m'a rarement trompé, elle est atteinte d'une péripneumonie à sa première période. » Et cette maladie est grave, excessivement grave à sa seconde période. Mais à sa première période, elle offre des chances de guérison. Et si, à ma visite de ce soir, l'état de mademoiselle Madeleine ne s'est pas amélioré sensiblement, j'attaquerai énergiquement la maladie dans son siège à l'aide de révulsifs. J'ordonnerai de larges vésicatoires. « Des vésicatoires, » répète M. de Luxeuil avec une répugnance douloureuse, mêlée d'anxiété. Mais elle ne voudra jamais les supporter, vos vésicatoires, et puis ces traces hideuses. Ces traces disparaîtront, et dans un mois il n'en restera plus vestige, répond l'homme de l'art. Quant à la résistance de mademoiselle Madeleine à l'application des vésicatoires, cette résistance serait facilement surmontée à l'aide du torchonnet, s'il fallait absolument recourir à cet expédient. Sur ce, monsieur, je vous quitte car je suis appelé ce matin chez Lord Seymour pour un cas de fracture fort grave. Qu'est-ce qu'il veut donc dire avec son torche-nez, monsieur le docteur ? Se demandait naïvement Tranquillin. Après tout, c'est sans doute un terme de l'art. Monsieur de Luxeuil, reconduisant monsieur Bérard jusqu'à la porte extérieure de l'appartement, lui réitéra les recommandations les plus instantes au sujet de la santé de l'intéressante malade. Puis le jeune beau, tout attristé, revint dans le salon et se rasseyant accablé, dit à l'homme d'affaires « Pardon, mon cher, mais je suis encore d'une inquiétude mortelle. Au sujet de cette pauvre mademoiselle Madeleine ? Hélas, oui, je suis d'une inquiétude, mais encore une fois, pardon, mon cher. Monsieur, ne vous excusez point de grâce, ne vous excusez point. Une pareille sensibilité fait l'éloge de vos sentiments et je... Cette perte serait pour moi irréparable. Ah, monsieur, ne prévoyez point un pareil malheur. Il y a tant de ressources dans la jeunesse et... « Enfin, mon cher, que vous dirais-je ? » Madeleine franchissait de pieds fermes au fossé de 15 pieds, dont le revers était garni d'une haie de 5 pieds. « Peste, la gaillarde, quel jarret ! » s'écria Tranquillin, joignant les mains avec stupeur. « Est-il possible, monsieur ? Cette pauvre mademoiselle Madeleine sautait des fossés de 15 pieds ? Bonté divine, 15 pieds ! Révérence parlée, cela me paraît, je n'ose dire, incroyable. Cependant, je... Comment ? « Mais il n'y a pas à douter de ce que j'affirme, mon cher, puisque c'est cela, c'est moi qui la lui ai fait faire. »« Quoi, cette jeune demoiselle ?» reprit Tranquillin. « En vérité, monsieur, je ne sais où j'en suis. » »« Ajoutez à cela qu'elle m'a coûté 700 guinées à Londres, chez Tattersall, où je l'ai achetée lors de la vente des écuries de Lord Glamorgan. Elle s'appelait alors Miss Alicia et n'avait que 3 ans. »« Achetée à l'âge de 3 ans ?» balbutie Tranquillin, complètement abasourdi. Lors de la vente d'une écurie. Sans doute, Madeleine, à cette époque, était encore pouliche. Une pouliche, ah mon Dieu ! Eh bien, mon cher, qu'avez-vous donc ? Vous semblez effaré. Une pouliche, moi qui croyais. Et une pouliche de premier sang, s'il vous plaît, fils de Ralph Junior et de Lady Burlesque. Très bien, monsieur, pardonnez à ma simplicité. Petite fille de Joseph II et de Fulvia. Je ne conteste point. Arrière-petite-fille de Commodore Brown et de Duchesse. Lisez le studbook, mon cher, lisez le studbook. Je vous crois, monsieur, sur parole. Et ce qu'il y a de désolant, c'est qu'avant sa maladie, j'ai engagé mademoiselle Madeleine dans le prochain steeplechase de la Croix de Bernie. Or, si ma jument ne peut courir, je serai obligé de payer forfait. Et j'ai, aux yeux des niais, l'inconvénient, mais selon moi, l'avantage d'être fort serré, mon cher, et de tenir beaucoup à l'argent, malgré ma fortune. Il n'y a pas, voyez-vous, de petites économies. Les pièces de 10 sous font les pièces de 20 sous, et celles-ci font les louis. Monsieur, les prodigues sont les fous, économes sont les sages. ce n'est déjà pas si bête ce que vous dites là, mon cher, mais revenons à notre entretien. Je suis, monsieur, tout à vos ordres. Je me permettrai seulement une petite observation. Excusez la liberté grande. Parlez, parlez. On attend la réponse à la lettre que vous venez de recevoir, monsieur. Et s'il vous plaisait de faire cette réponse, nous reprendrions ensuite notre entretien sans être interrompus. C'est vrai, j'oubliais cette lettre, dit monsieur de Luxeuil en prenant l'enveloppe. Et avant de la décacheter, il ajoute « Ainsi, vous permettez, mon cher ?»« Ah, monsieur, je vous en supplie !» répond Tranquillin. Et il se dit à part lui « Était-je assez oison d'aller imaginer que ce jeune homme oubliait une grande dame pour une grisette ? Et cette dame, il l'oubliait pour qui ? Pour une pouliche ? Quel cheval que ce beau jeune homme-là ! Ce n'est point un cœur qui bat dans sa poitrine, que dis-je, dans son poitrail ?» Monsieur de Luxeuil a décacheté l'enveloppe, scellée d'un cachet largement armorié, d'où il tire une lettre de plusieurs feuillets, couverte d'une écriture très fine. Il fait un geste d'épouvante à l'aspect de cette interminable missive et se borne à jeter un regard nonchalant sur les dernières lignes de l'épître qui doivent, selon lui, la résumer. Cette supposition ne l'a pas trompé, car il murmure à demi-voix en haussant les épaules. Quelle insupportable phraseuse ! 8 pages de son écriture, et quelle écriture ! Des pattes de mouche microscopiques, le tout pour me dire qu'elle me conjure de renouer avec elle. Pouh ! Héloïse est abominable phraseuse, c'est vrai, mais je ne lis pas ses lettres. Puis elle est très jolie et pas gênante. Son mari est philosophe. Elle a une très bonne loge à l'opéra où j'ai ma place. De plus, elle possède un excellent cuisinier. C'est toujours si franc de moi à dépenser lorsque je dîne chez elle au lieu de dîner au club. Or, une économie de 3 dîners par semaine, à 6 francs chacun, c'est 72 francs par mois, 344 francs pour 2 mois, et... Tiens, mais j'y songe. Tiens, mais c'est un peu plus que le prix d'une culotte de peau pour mon postillon à la Daumont. Et justement, la sienne a bien besoin d'être renouvelée. Eh bien, Héloïse a eu, par ma foi, une fameuse idée en m'écrivant. Si à propos, ce que c'est que l'amour, pourtant. Après ces judicieuses réflexions, M. de Luxeuil, surtout frappé de sa dernière et triomphante considération à l'endroit de la culotte de son postillon, sonne son valet de chambre. Celui-ci entre et son maître lui dit « Répondez que c'est bien, j'irai. Monsieur, c'est que... Quoi ? Madame Justine, qui a porté la lettre et les fleurs, a ordre de ne revenir qu'avec une réponse écrite. Eh bien, Madame Justine retournera sans réponse écrite, voilà tout. Encore une fois, dites que c'est bien et que j'irai. Il suffit, monsieur. » dit le serviteur en se retirant et laissant son maître avec Tranquillin.